Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de faire un sujet sur l'enfant roi, qui est un thème qui revient beaucoup dans la bouche des uns et des autres, quel que soit notre milieu d'appartenance et de croyance. Cette notion d'enfant roi dérange énormément, questionne, bouscule et vient souvent s'opposer à la pédagogie alternative, ou en tout cas une certaine alternative en pédagogie, pour justifier que cette approche pédagogique est inadaptée puisque les enfants, au final, ont des comportements qui sont désagréables, qui sont antisociaux et qui sont tyranniques. Donc, je vais essayer de démêler un petit peu cet écheveau avec vous pour voir ce que l'on peut tirer de cette expérience et de ces observations qui nous font dire parfois qu'il s'agit d'un enfant roi. Pour commencer, je vais prendre un petit peu le contre-pied de la formule en disant que, d'un certain point de vue, oui, les enfants sont des rois. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce sont des princes et des princesses et qu'ils méritent nos égards comme tout ce qui est précieux et vivant. Donc, je pars de là et c'est pour ça que, pour moi, effectivement, la notion d'enfant roi, en tant que telle, elle ne me choquerait pas si, derrière cette appellation, il n'y avait une vision négative et critique des comportements de l'enfant qui sont peut-être, nous allons le voir, justifiés par moment. Je vais commencer par un exemple qui m'a été raconté très récemment, il y a quelques jours seulement. Une jeune femme arrive dans notre oasis et elle veut connaître un peu les uns et les autres, donc elle se promène parmi les membres du collectif, assiste à différentes activités. Et il y a un chantier qui se déroule au milieu des habitations. Et il y a des enfants qui sont là, donc elle s'intéresse aux enfants, elle s'assoit par terre, il avait plu comme beaucoup dans notre région. Et elle commence à construire des petits objets avec de la glaise, de l'argile, de la boue en fait. Et il y avait un petit garçon qui était là aussi, un petit garçon de 3 ans, 3 ans et demi. Et quand il la voit modeler comme ça, il lui demande de lui faire un bol, et puis une cuillère, et puis autre chose. Et elle aligne les petits objets qui ravit le petit garçon, qui est très content. Et il y a une petite fille qui arrive et qui écrase avec son pied, un à un, les objets qui ont été construits par la jeune femme. Cette jeune femme, elle arrive sur un lieu où elle sait que l'éducation est un enjeu très particulier, puisque nous avons mis l'enfant au centre de nos intentions, que nous pratiquons une pédagogie alternative. Et donc, elle ne sait pas trop comment réagir, et du coup, elle ne dit rien. Et elle laisse la petite fille, qui est un peu plus âgée, hein, qui a 6-7 ans, avec sa botte, écraser un à un les objets qu'elle a préparés. Et elle m'en parle parce qu'elle est dans un désarroi. Quelques jours plus tard, elle ne savait pas trop quoi faire de cette situation. Nous parlons éducation et elle me fait part de cet épisode qu'elle a vécu récemment. Ce sont typiquement ce type de comportement chez un enfant qui pourrait, lui, selon certains en tout cas, lui faire mériter le titre d'enfant roi. C'est-à-dire, oui, parce que j'ajoute que les parents étaient à proximité et n'ont pas réagi. Donc ça, c'est un d'après elle. Hein. Moi, je n'étais pas là. Des petites histoires comme ça, j'en ai vu quantité et on m'en a raconté très souvent parce que justement, un peu mes contradicteurs viennent me dire « Mais regarde Sophie, ce que tu proposes, voilà ce que ça crée. » Ça crée parfois des enfants rois. Alors moi, je plaide absolument non coupable sur ces questions-là. Mais je vais essayer de vous expliquer en quoi, de mon point de vue, l'enfant roi, c'est-à-dire celui qui ne tient pas compte de la sensibilité des besoins des autres à un moment donné, n'est pas le résultat d'une pédagogie alternative telle que moi je la préconise. Mais peut-être est face à une autre problématique qu'on va essayer de décortiquer ici. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire que dans tous les cas, et 100% des cas, l'enfant est innocent. Je le répète pour que ça s'ancre bien, l'enfant est innocent. Donc si il y a à déplorer des comportements qui sont difficiles, qui sont douloureux, qui sont souffrants, qui sont pénibles, l'enfant reste innocent, reste dans son innocence. Lui, il ne fait qu'obéir à des impulsions, des émotions, des réactions en rapport avec son environnement et notamment son environnement humain. Et le premier référentiel des enfants, c'est effectivement ses parents. Donc effectivement, on peut aller chercher du côté des parents. Qu'est-ce qui se passe pour que l'enfant se comporte de telle ou telle manière? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que on a tendance, et c'est vraiment dommage, à faire des généralités à partir d'un épiphénomène ou d'un événement que l'on ne comprend pas, parce qu'il ne correspond pas à ce que nous avons connu lorsque nous étions nous-mêmes un enfant, ou ça ne correspond pas à nos valeurs ou à nos croyances. Par exemple, la croyance qu'un enfant doit être obéissant, ou qu'un enfant doit être sage, ou qu'un enfant doit être poli. Voilà, donc si l'enfant n'obéit pas ou ne correspond pas à notre catalogue, notre propre catalogue de référence, alors on va tout de suite émettre un diagnostic ou une évaluation sur la situation, mais souvent un peu trop rapidement. Parce qu'il se peut que l'enfant qui vit un épisode de frustration ou de colère ou de tristesse ou peu importe, se manifeste d'une manière qui, dans les apparences du moins, sont des manifestations qui peuvent être désagréables ou nuire à autrui, parce qu'il fait beaucoup de bruit, par exemple lors d'une crise de rage, ou parce qu'il bouleverse une organisation. Par exemple, parce que, alors que tout le monde veut partir en promenade, et ben lui, il ne veut pas, ou il se cache sous la table, ou il dit non à un endroit où tout le monde aimerait dire oui. Et du coup, ça, c'est contrariant pour les adultes ou pour les autres participants. Ou parce que l'enfant est en proie avec une très vive émotion qu'il ne peut pas maîtriser, c'est ce qui est le cas dans une crise de rage, hein, où l'enfant est vraiment dépassé par son émotion, et qu'il ne peut pas la contenir. En tout cas, s'il y est autorisé, eh bien, il va l'exprimer librement. Et ça peut être le cas aussi avec d'autres types d'émotions, et qui parfois se transforment dans des actes. Hein. Vous connaissez le syndrome du biscuit cassé. C'est l'enfant qui va partir dans des pleurs qui nous paraissent excessifs de notre fenêtre, parce qu'il y a au goûter un biscuit cassé et qui veut un biscuit entier, et puis ça devient dramatique. Et là, l'adulte que nous sommes peut se dire, mais c'est rien du tout, en fait il est en train de faire une comédie pour rien, c'est un caprice, etc. Donc c'est ce qu'on a appris lorsqu'on n'a pas su comment considérer et accueillir les émotions des enfants. Mais lorsqu'on a conscience qu'un enfant peut avoir besoin de décharger émotionnellement. Alors souvent, la décharge, elle se fait effectivement sur le biscuit cassé ou sur la couleur du gobelet ou parce que je voulais aller de ce côté de la voiture et pas de ce côté. Enfin, des choses qui nous paraissent complètement absurdes et sans gravité, sans importance. Et pour l'enfant, ça va prendre une importance capitale dans l'instant en rapport avec une émotion qui nous paraît démesurée. Et ça s'appelle de la décharge, très souvent, et ça peut être relié à des événements antérieurs qui n'ont pas été vus, compris ou accueillis. Par exemple, parce que le parent a passé énormément de temps avec le petit frère ou la petite sœur, et puis que les besoins de l'aîné ont été mis de côté, ou parce que l'enfant peut-être s'est senti à un moment donné bousculé par de la culpabilité, parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé dans la relation avec quelqu'un, par exemple un grand-père, une grand-mère qui l'a grondé pour une raison, et puis finalement l'enfant prend sur lui, refoule, surtout lorsque l'adulte en question est dans des modèles éducatifs plus conventionnels où l'enfant doit s'adapter, ben, parfois l'émotion va ressortir des heures ou même parfois des jours après, sous une forme inattendue. Donc tout ça, pour moi, ce n'est pas du domaine de l'enfant roi, lorsque ça reste des phénomènes comme ça, qui sont assez, assez isolés, ou pas d'ailleurs, parce que en même temps que je vous parle, je suis en train de penser à ma propre fille qui, pendant des années, déchargeait quasiment quotidiennement par des pleurs très intenses, de la rage, de la colère, elle se roulait par terre. Et je ne crois pas que le qualificatif d'enfant roi était adapté à sa situation. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Mais juste que c'était une petite fille hypersensible qui avait des émotions à fleur de peau pour des raisons aussi contextuelles, compréhensibles, avec un divorce très compliqué où elle a été aussi impliquée dans des interrelations avec son papa, avec moi, avec des situations complexes, même avec une situation institutionnelle. Enfin, je vous passe les détails, mais en tout cas, il y avait de quoi être en colère, il y avait de quoi avoir besoin de décharger. Un peu plus tard, avec le travail que j'ai fait, j'ai aussi compris que les enfants peuvent aussi avoir des charges émotionnelles qui ne leur appartiennent pas, qui peuvent aussi appartenir aux parents en premier lieu. Je me souviens de ma thérapeute qui me disait, quand je lui racontais que ma fille avait des colères telles terribles, immenses, qui me bouleversaient, et elle me disait, toi tu te mets en colère? Je dis, non, moi je ne me mets pas en colère, moi je suis quelqu'un de bien, je ne me mets pas en colère. Et elle me disait, qu'est-ce que tu en fais de ta colère? Mais quelle colère? Et en fait, je savais très bien au fond de moi que j'avais énormément de colère, mais que j'avais juste peur d'ouvrir cette boîte de Pandore, et que les enfants, parfois, ils viennent appuyer sur ces boutons qui sont verrouillés pour nous faire exploser ou tenter de nous faire exploser. C'est comme s'ils sentaient qu'on avait vraiment besoin de libérer quelque chose et que, inconsciemment bien sûr, je ne pense pas que ce soit conscient, mais inconsciemment, sentant cette énergie nouée, eh bien ils viennent frapper sur les fragilités, presque pour nous faire décapsuler une émotion qui est enkystée. Et je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, moi, ça a été vraiment très, 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 très frappant, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à accueillir mes propres colères et à me les réapproprier, eh bien, effectivement, ça a pu libérer ma fille aussi de certaines des siennes, qui, en fait, n'étaient pas seulement les siennes. Et c'est presque dans l'air que ça se passe, c'est-à-dire... lorsque on a refoulé beaucoup d'émotions en étant enfant, comme on s'interdit en quelque sorte de rentrer dans ce champ émotionnel qu'on nous a inculqué que c'était pas bien d'être en colère, de pleurer, de faire des crises, que l'émotion en général était une manifestation plutôt négative, plutôt indésirable, on a pris l'habitude de retenir. Or, même si on veut être dans une éducation bienveillante, même si on choisit une pédagogie alternative où on va accueillir l'enfant avec respect, etc., les émotions refoulées, elles sont là, elles nous habitent. Et l'enfant, finalement, dans son quotidien, dans les interrelations avec lui, on va commencer par être activé. Il y a des mémoires qui vont se réveiller, parce qu'en plus, la petite fille qui est en face de moi, c'est un peu ma petite fille intérieure aussi, qui est en miroir. Et donc, quand les enfants s'activent autour de nous, et si on a des émotions refoulées de notre propre enfance, ça va les réactiver, ça va les réveiller. Et comme on est des gens bien, et qu'on ne veut pas crier, ni frapper, ni être injuste, etc., on va retenir tout ça. Ce qui fait que finalement, des fois, ça va sortir d'une manière impromptue, maladroite, retenue. Et bien souvent, l'enfant perçoit ça. C'est vraiment même dans le ton de la voix, dans la tonalité, dans la prosodie de la phrase, que l'enfant va reconnaître que, en fait, on est très contrarié, mais qu'on ne l'exprime pas vraiment. Et peut-être que c'est lui qui va prendre le relais à ce moment-là et puis lâcher quelque chose d'énorme qui va nous permettre de nous connecter à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Je me rappelle qu'un jour... mon aîné Lucas, il m'a lancé un jouet. Mais alors, je me rappelle plus si c'était intentionnel ou pas, mais je ne sais même pas s'il était tellement en colère, parce que Lucas était très peu en colère. Il ne faisait pas du tout de crise de rage comme sa sœur. Mais donc, c'était plutôt une colère froide, peut-être, on va dire. Et lui, il m'a lancé un jouet qui m'est arrivé entre les deux yeux et qui a ouvert une petite plaie sur mon front, entre les yeux. Et c'était vraiment... pour moi, c'était vraiment un électrochoc. Je devais être dans une période compliquée. Je crois que j'étais en plein divorce avec l'école qui avait commencé. J'avais des responsabilités de directrice, de maman solo, avec le procès de mon ex-mari en filigrane, etc. Enfin, bon, j'étais sans doute pas mal en tension. Mais je voulais assurer à 100% quoi, pour mes enfants, pour mon école, pour tout, pour ma ferme. Il fallait que tout ça avance et je ne m'écoutais plus du tout, du tout, du tout. Et Lucas m'a envoyé un jouet en pleine figure et ça m'a stoppé net, quoi. Il y a un moment où ça m'a assise. Je me suis assise et là, j'ai été obligée de me poser et de regarder ce qui se passait pour moi. Donc c'était... voilà, si je fais cette énumération de situations où l'enfant va manifester quelque chose qui est plus de l'ordre de l'épiphénomène, dans le sens où ce n'est pas un comportement habituel, récurrent, continu. Voilà, on n'est pas là-dedans. On est dans vraiment soit des manifestations émotionnelles, des débordements, des charges... des expressions ou des gestes qui sont pas le fruit du hasard, évidemment, mais il n'y a rien qui est le fruit du hasard dans les comportements de l'enfant, mais qui ne sont pas non plus à relier à une forme d'éducation particulière. Dans le sens où, moi j'ai vu des enfants manifester, exprimer par la mise en acte dans tous les systèmes éducatifs. C'est pas... parce qu'on est dans le respect de l'enfant, à l'écoute de ses besoins, que l'enfant va spécialement manifester des mises en acte, d'expression de quelque chose qui se passe pour lui. Ça peut arriver vraiment dans tous les milieux, mais tout en reconnaissant que lorsqu'il y a l'espace pour l'expression, que l'enfant n'est pas dans la peur de ce qui pourrait s'abattre sur lui si jamais il dit ses colères, ses peurs, ses tristesses, etc., ben, en même temps, ça va créer de l'espace pour s'exprimer et en même temps, ça va diminuer le nombre des mises en acte parce que lorsque l'émotion est accueillie, eh ben, il n'y a plus besoin de la mettre en acte. Or, chez l'enfant roi, on va assister à un autre phénomène. Donc, ce qu'on appelle l'enfant roi, c'est-à-dire un enfant qui va outrepasser les limites de ce qui est soutenable pour les autres autour de lui, de ce qui est acceptable, sans vraiment s'en rendre compte, tant que personne ne s'occupe d'éveiller sa conscience sur ce phénomène. Ce phénomène, s'il est déjà enclenché, ça veut dire que l'enfant a été dans une situation récurrente, où il a été abandonné à ses propres comportements, et finalement, sa manifestation d'enfant roi, donc un... Je vous disais, ben voilà, ça pourrait être un des symptômes, un enfant qui détruit systématiquement ce que font les autres enfants. Je dis bien ça pourrait, et je le mets au conditionnel, parce que ça pourrait être aussi autre chose. Ça pourrait être un enfant qui juste fait ça de manière très occasionnelle, parce qu'il y a quelque chose qu'il est en train d'exprimer, de manifester, qui n'a pas été entendu, mais c'est occasionnel. Lorsque c'est un comportement ordinaire, là, il y a de quoi se poser des questions. Un enfant qui, par un comportement ordinaire du quotidien, on va pouvoir observer que, oui, il détruit tout ce que font les autres, il se pose aucune question avant de mettre les mains dans le plat, dans les assiettes des autres, il va systématiquement rentrer dans les conversations brutalement, en parlant très fort, sans égard pour ceux qui sont en train de dialoguer. Alors, ça dépend quel âge il a. Hein. S'il a 2 ans, c'est normal. C'est son boulot. Là, lui, il n'est pas fait, il n'est pas encore câblé pour prendre conscience qu'il y a une conversation qui est à court et qu'il y a des échanges qui nécessitent de la tranquillité, du respect de la parole de l'autre, etc. Donc, il est tout petit, c'est normal que l'enfant il déboule, il fait son job quoi, il déboule, il suit peut-être une observation, une idée, un sentiment, une sensation. Il voit le chat de l'autre côté de la pièce. Voilà, s'il faut qu'il vous marche dessus pour y aller, il va le faire. Mais là, ça n'est pas de l'irrespect. C'est juste le job d'un petit de 2 ans. Et d'ailleurs, c'est souvent très, très bien vécu. Un petit bébé qui va vous marcher dessus, par exemple, vous êtes sur le canapé et puis lui, il a vu quelque chose qui l'intéresse de l'autre côté, même si vous êtes les invités et tout ça, il va peut-être grimper, vous passer sur les genoux, passer sur les genoux du voisin et puis aller jusqu'à l'autre bout, là où il y a quelque chose qui l'intéresse. Et ça n'est absolument pas un souci. Même socialement, c'est très, très bien accueilli. Donc là, chacun va sourire, va se régaler de ce petit qui nous passe sur les genoux et on va essayer d'attraper un petit câlin au passage ou un sourire. Voilà, et ça, c'est socialement, c'est complètement, c'est de la joie. Un enfant qui fait ça à 8 ans, là, ça va être très différent parce qu'on va juger qu'il est impoli, n'a pas de limite, qu'il est irrespectueux. Et sans doute lui demander de faire autrement. En théorie, quand l'enfant a été accompagné vraiment dans la construction de ses relations sociales, il ne fera pas cela. Il n'aura pas ce type de comportement. Il va plutôt avoir de la réserve, peut-être même un petit peu de timidité. S'il y a les invités qui sont au salon, sur le canapé, et que lui, il doit aller chercher un objet de l'autre côté, il va. Si vraiment il a l'audace, il va peut-être demander qu'on lui passe l'objet ou peut-être il va contourner, il va faire attention de ne pas devenir le centre de l'attention la plupart du temps. Parce que les enfants libres que je connais, et j'en ai connu beaucoup, des enfants qui ont été accueillis dans tout ce qu'ils sont en tant qu'enfants, n'apprécient pas particulièrement être au centre de l'attention. Ils ont construit une forme de subjectivité dans laquelle ils sont installés et ils ont leur bulle aussi d'intimité qui leur permet de se protéger de trop d'intrusions de la part des autres. Mais le pendant, c'est que eux-mêmes ne sont pas intrusifs. Donc, lorsqu'il y a un enfant qui est intrusif, donc qui va se manifester bruyamment, se manifester d'une manière illimitée, qui va faire fi des conventions, des règles sociales. Par exemple, si on est au restaurant, un enfant qui irait, je ne sais pas, grappiller dans les assiettes des autres personnes, qui irait s'asseoir à une autre table que la sienne, etc. Donc là, c'est un enfant qui n'a pas construit, en fait, cette bulle subjective qui lui permet de constituer sa propre cellule avec une membrane qui lui permet en même temps de rencontrer le monde et en même temps d'être en sécurité dans sa propre cellule. Quand je parle de cellule, il n'y a pas de notion d'enfermement, hein. C'est vraiment la cellule protectrice, celle qui nous permet d'être nous-mêmes, d'être soi, d'être dans notre être et dans notre raison d'être, tout en respectant les cellules des autres. Donc c'est une cohabitation qui nécessairement trouve, se chorégraphie, trouve sa propre orchestration grâce à l'expérience de la vie sociale qui va se faire en premier lieu avec les parents et les frères et sœurs. Et ça nécessite de l'accompagnement, ou au minimum de l'intégrité de la part du parent, de la cohérence et de la congruence. Un enfant roi n'a pas pu construire cette géométrie avec les autres. Cette géométrie où il y a une juste distance, où il y a une juste perméabilité, où il y a un rapport cohérent, où moi, je peux être moi avec mes besoins, mes ressentis, mon être. Et à partir de cette expérience, je peux reconnaître que l'autre est là aussi et existe avec ses besoins, ses ressentis et son propre être. Si ça ne s'est pas construit, cette fonction naturelle qui vient réguler les relations entre les êtres de manière à ce que l'on puisse cohabiter sans se nuire, sans se fatiguer les uns les autres, s'éprouver mutuellement, de manière ordinaire, hein, j'entends, parce que des épreuves avec les enfants, bien sûr que nous en avons. Vous êtes fatigué de votre journée et le soir, il y a une crise de larmes intense. Oui, ça peut être une épreuve. Ça peut être, évidemment. Mais là encore, c'est de l'ordre de l'expression de la décharge, pas d'un ordinaire qui voudrait que l'enfant soit tout le temps en train de déborder. En fait, c'est ça. C'est un enfant roi, c'est un enfant qui est tout le temps en train de déborder comme une fontaine ou une source qui n'a pas aucun contenant et qui se répand, qui inonde son environnement et qui crée finalement dans son entourage du malaise et de la déconvenue. On ne sait pas trop comment faire avec cet enfant qui déborde dans tous les sens. Et encore une fois, ça n'est pas de son fait, ça n'est pas de sa responsabilité. S'il est ainsi, c'est que ça s'est construit ainsi pour lui, de par un conditionnement lié au comportement des parents. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer pour que cet enfant n'ait pas pu construire cette individualité qui lui permet d'être tranquillement la plupart du temps avec les autres? Dans le milieu dans lequel je gravite, il y a plusieurs facteurs que j'ai observés. D'une part, nous sommes des parents qui avons très très peur de reproduire les schémas de violence ou de domination que nous avons subis lorsque nous étions enfants. Nous sommes dans une transition. Et cette transition, elle est comme le ballon d'un même pendant, où on est allé dans l'extrême violence et domination, et que, à l'inverse, on va s'attacher à ne plus faire vivre à l'enfant ce qui nous a fait souffrir. Mais comme c'est le même balancier, ben finalement, on est toujours dans la même logique de dominer ou être dominé quelque part. Mais on ne résout pas profondément et véritablement l'origine de la problématique. Parce que ce n'est pas en laissant l'enfant donner libre cours à toutes ses impulsions, ce n'est pas en laissant l'enfant à l'abandon de ses propres phénomènes, en se disant lui, il sait, moi je ne sais rien, il est un être naturel qui a son guide intérieur, etc. C'est vrai, mais à condition que l'environnement permette à ce guide intérieur de prendre sa place, de se révéler et de rester à sa place. Le guide intérieur, ce n'est pas un tyran intérieur, c'est un guide intérieur. Si on voulait l'appeler tyran intérieur, on l'aurait appelé tyran intérieur, ce n'est pas ça. Et finalement, la première victime de ce tyran, si c'est lui qui prend place, eh ben ça va être l'enfant lui-même, parce qu'il n'est pas dans l'alignement avec ce qu'il est, ses besoins, ses ressentis. Il y a fort à parier qu'un enfant dit enfant roi, c'est-à-dire qu'un enfant qui se déchaîne dans des défoulements à n'en plus finir, de comportements invasifs, ben, cet enfant-là, il va très certainement subir une privation de liberté, en fait, qui est la liberté d'être tranquille, qui est la liberté d'être accueilli, qui est la liberté de susciter de l'empathie, de la bienveillance de la part de son environnement. Parce que tout ça, on en a vraiment besoin. Mais pour être libre de recevoir ses bienfaits, c'est vraiment important que l'enfant puisse lui-même émaner cet équilibre-là. Moi, je me rappelle d'un enfant qui a déboulé dans mon jardin un jour. C'est la première fois que je le voyais, cet enfant. Et c'était, j'avais l'impression qu'il y avait une tornade qui s'était abattue sur mon palier, quoi. C'était juste devant la porte d'entrée. Cet enfant arrive, il devait avoir 6 ou 7 ans. J'avais des poules, il s'est mis à courir après les poules, mais d'une manière complètement désordonnée, chaotique. Mes poules étaient affolées. Après, il a essayé d'attraper les chats par la queue. Il a touché à tous les objets qui étaient là. Les pots de fleurs, les trucs. Il touchait à tout, il déplaçait tout, comme si tout était à lui et qu'il n'y avait aucun égard pour le fait qu'il arrivait chez moi. Et là, moi, je me suis sentie mais bousculée, effectivement, intérieurement, presque bouche bée, sidérée et dans l'incapacité d'aller à la rencontre de cet enfant, a priori, quoi. D'autant plus que les parents étaient là, enfin, la maman était là et qu'elle ne bougeait pas, quoi. Enfin, en fait, à vrai dire, je sentais qu'elle essayait de lui exprimer quelque chose, mais qui n'arrivait pas du tout à destination. C'est-à-dire que ces mots n'avaient aucun effet. C'était non, arrête, attends, reste là, viens, on va. Et alors, l'enfant n'écoutait mais pas un seul de ces mots. J'ai tout de suite imaginé que c'était leur relation habituelle, c'est-à-dire un enfant qui est chaotisé mais qui part dans tous les sens, qui touche à tout, qui court après tout ce qui est vivant, et une mère mais complètement débordée, même renonçante, hein, avec des mots automatiques qui lui sortent de la bouche sans aucun effet sur l'enfant. Voilà. Donc là, typiquement, c'est le syndrome de ce qu'on pourrait appeler un enfant roi, mais en creusant, parce qu'après j'ai connu un peu mieux cet enfant, on avait aussi un symptôme de ce qu'on appelle le TDHA. J'ai su par la suite que c'était un enfant hyperactif, TDHA, donc qui ne pouvait pas s'arrêter d'agir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, est-ce que ces enfants-là rentrent dans la catégorie de l'enfant roi? Je ne sais pas. De toute façon, qui a le monopole de ce mot? Je veux dire, qui est légitime pour dire à un moment donné, là, on a affaire à un enfant roi ou pas? Chacun va voir midi à sa porte. Il y a des personnes qui vont avoir des limites très très courtes concernant les comportements de l'enfant. Pour certaines personnes, le simple fait qu'un enfant sorte de table sans avoir demandé, c'est déjà, on est déjà dans le syndrome de l'enfant roi. Donc ça n'a aucun sens en même temps ce mot, hein. Il n'a que le sens qu'on lui donne, nous sommes d'accord. Et puis, pour moi, mes limites sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lointaines. C'est-à-dire que moi, je vais commencer à me dire, il y a un souci, mais je ne vais pas utiliser cette formule d'enfant roi parce qu'elle m'intéresse assez peu. Mais je vais me questionner sur un souci lorsqu'effectivement, il y a un enfant qui va se manifester de manière très chaotique, je ne sais pas comment dire, mais d'une manière qui, en tout cas, ne respecte pas la limite des autres. Et surtout, lorsque les parents, quand ils sont présents, ne réagissent pas. Et là, je trouve ça alarmant, quoi. Si effectivement, dans le cas que je vous ai raconté tout à l'heure, la petite fille est en train d'écraser tous les objets qui sont fabriqués pour le petit garçon émerveillé qui regarde ces objets sortir de terre, et puis au fur et à mesure, crac, 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 elle écrase ça avec les bottes, et puis que les adultes autour ne disent rien, moi, j'appelle ça de l'abandon. Et après, on ne peut pas s'étonner de voir un enfant qui a des difficultés sociales. Il ne faut pas s'en étonner. C'est juste normal. Moi, s'il y a un enfant qui vient et qui écrase les constructions que je suis en train de faire, mais il va m'avoir en face de lui, quoi. Mais pas du tout d'une manière violente. Ou je suis évidemment pas celle qui va dire, comme certains, lui, il aurait besoin d'une bonne... je l'ai entendu encore hier. Une bonne fessée, ça ne fait pas de mal, etc. Ça n'a rien à voir avec ça, mais rien, rien, rien. Il n'y a pas du tout besoin d'être violent à cet endroit-là. Et il ne faut pas être violent. Il faut être un maître pour l'enfant, comme l'enfant est un maître pour nous, par moment. Mais être un digne compagnon qui va s'intéresser à ce que vit l'enfant et lui indiquer que là, c'est OK, là, ça n'est pas pour moi, Voilà, dans l'authenticité, pouvoir partager ce qui se passe. Moi, si un enfant est en train d'écraser tout ce que je fabrique, la première chose que je fais, c'est stop. Tu arrêtes. Stop. Et c'est un stop où il n'y a pas d'espace pour la négociation, quoi. C'est stop. Déjà, stop. Voilà. Et après, ma chérie, mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Viens, on va discuter. Viens sur mes genoux, viens à côté de moi, viens, on s'éloigne un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Et là, on rentre en relation. Et là, l'enfant n'est pas abandonné. Parce que si vous le laissez faire en vous disant « Non, mais mon enfant, c'est la huitième merveille du monde, il vient de la nature, donc vous comprenez, tout ce qu'il fait est juste. » C'est pas du tout ça, ma pédagogie. Pas du tout. Donc, tous ceux qui ont compris ça, détricoter cette croyance. C'est pas parce que l'enfant vient de la nature qu'il a un guide intérieur, qu'il est merveilleux. Oui, il vient de la nature, il a un guide intérieur et il est merveilleux. Et il ne va pouvoir exprimer toutes ses merveilles que si vous êtes à ses côtés, vivant, authentique, congruent, concerné, attentif, et que vous avez du répondant, que vous êtes vrai. Sinon, on est où? Sinon, ça veut dire que l'enfant, il est dans un désert, en fait. Il n'a personne pour lui montrer comment fonctionne cette planète sur laquelle il est arrivé, et notamment comment fonctionnent les relations entre les humains, si on ne lui indique pas. Et à l'intérieur de lui, il y a un effet de panique, parce que se retrouver seul face à tous ces enjeux du quotidien, c'est compliqué, c'est une lourde, ça peut être une lourde charge, parce que l'enfant, il est pas idiot, loin de là, il est complètement connecté, intelligent, relié, et il sait très bien si ses comportements suscitent l'approbation ou la désapprobation de ses pairs. Il sait très bien, au final, si il est un être bienvenu et apprécié, ou si, quand il arrive, on se dit « Oh là là, voilà encore le casse-pied de service !» Surtout dans un collectif, quel que soit le collectif, ça peut être à l'école, ça peut être en institution, il va capter assez vite quelle est l'identité qui lui a été transmise, volontairement ou involontairement, bien sûr, la plupart du temps involontairement, par son environnement social qui n'a pas fait le job, quoi. Donc c'est hyper important d'être là et de pouvoir répondre. Moi, si un enfant me marche dessus, si c'est pas ok pour moi, si c'est un jeu, qu'on rigole, qu'on chahute et tout ça, il n'y a pas de souci, ou peut-être on peut le prendre comme ça. Maintenant, si c'est de la brutalité ou de l'irrespect des besoins d'un autre être vivant que je suis, ben là, il va m'entendre aussi. Mais gentiment, je vais lui dire « Oui, tu veux passer peut-être? C'est ça que tu voudrais, petit chéri ?» Ben voilà, ben, tu vois, soit je peux me décaler, ou tu peux me demander, ou tu peux passer derrière. Mais on va interagir, on va dialoguer là-dessus. Et qu'est-ce qu'on va permettre à l'enfant? Pourquoi ça le met en sécurité? Parce que, en fait, lorsqu'il se comporte de manière, entre guillemets, irrespectueuse envers d'autres êtres vivants, il vient aussi questionner ce qu'il est possible de lui faire à lui. Et potentiellement, si lui, il peut marcher sur autrui, détruire ce que autrui est en train de faire, tirer les oreilles du chat, et que personne ne dit rien, ça veut dire que il n'y a pas de règle fondamentale de respect dans cette maison, quoi. Et que peut-être à lui, on pourrait aussi venir abuser de son corps, de son espace, de son temps, de je ne sais quoi. Et qu'il n'y aura personne qui dira rien non plus. C'est hyper flippant pour un petit. Donc attention à ça. Attention aux croyances que je suis bienveillant parce que je laisse mon enfant être libre, être lui-même, tout faire, tout expérimenter, en me disant que il aura le contrôle de l'erreur parce que l'environnement entier soutient son développement. Oui, c'est vrai, tout ça est vrai, mais il a besoin de nous. Il a besoin de notre accompagnement, il a besoin de nos explications. Et en premier lieu, il a besoin de nous en tant qu'inspirateur, que modèle. Comment moi je m'y prends pour faire respecter mes besoins? Comment je m'y prends? S'il n'y a rien à dire jamais, parce que de toute façon je suis à 150% dévouée aux faits et gestes et moindres respirations ou soupirs de mon enfant, je lui fausse complètement la réalité, parce que ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est que, j'existe. Toi, tu existes et c'est merveilleux. On existe tous les deux. Comment on fait maintenant pour s'organiser? Tu vois? Comment on fait pour que je puisse fabriquer des petits objets en terre pour mon petit voisin, là, qui a 3 ans et qui est super content de jouer avec moi? Et que toi, tu puisses peut-être venir dans cette relation, participer, mais pas écraser avec tes pieds tout ce que je fais, parce que ça, c'est pas OK. Tu n'es pas légitime, en fait, pour faire ça. Et je vais te le faire savoir, tranquillement. Moi, j'ai l'impression aussi que ce renoncement à dire quoi que ce soit à un enfant qui, du coup, pourrait dériver vers ce syndrome d'enfant roi, c'est aussi des parents qui ont peur de leur propre violence. Mais le problème avec ce type de profil, c'est que le parent, il va être patient, 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 gentil, 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 et péter un plomb au bout du compte. Je veux dire, il va être patient, gentil et, passif 9 fois, et la 10e fois, il pète un plomb, parce qu'il n'en peut plus. Et là, il culpabilise. Et il se remet à être gentil, patient, passif, observateur, 9 fois, et la 10e fois, il pète un plomb. Ou alors, autre symptôme que j'ai vu aussi, ce sont des parents qui sont quasiment en burn-out, parce que avoir ce type de relation avec ses enfants, c'est burn-out assuré ou presque. Et donc, ces parents, comme ils sont très tendus, au fond, par cette situation déséquilibrée, avec leurs enfants, eh ben, ils sont agressifs l'un vers l'autre dans le couple. Et ils vont se faire des reproches. Tu n'en fais pas assez pour la maison, pour le ménage. Tu te rends compte toute l'attention que nous demandent nos enfants, les choix qu'on a faits, etc. etc. Donc, j'ai des exigences sur mon conjoint ou sur ma conjointe qui sont quasiment illimitées. Parce que ça demande énormément. C'est un travail harassant de devoir être dans l'accueil inconditionnel de tout le temps, de cette manière. Et en fait, la maltraitance, elle n'est pas vis-à-vis de l'enfant, bien que pour moi, l'abandon, c'est de la maltraitance. Hein, l'abandon de l'enfant à ses propres impulsions, sans qu'il y ait de répondant, pour moi, c'est quand même une forme de maltraitance. Mais la maltraitance, disons, agressive, elle va se jouer dans le couple. Un couple qui est épuisé, qui est dépassé, qui est débordé, par la situation qu'il a lui-même créée, quoi. Et donc, finalement, les enfants, ils vont vivre quand même l'agressivité, ils vont vivre quand même la contrainte relationnelle, mais transposée, parce que c'est pas directement lui qui reçoit la contrainte, mais il l'observe chez les parents qui sont en tension. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai observé. Lorsque les parents sont gentils, 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 puis tout d'un coup, ils sortent les crocs, c'est très déstabilisant pour un enfant. C'est très déstabilisant. L'enfant, à la limite, je préfère presque un parent qui est tout le temps un peu agressif que ça. Parce que finalement, il y a plus de cohérence et peut-être plus d'authenticité. Je ne préconise pas d'être agressif, évidemment, ce n'est pas du tout mon idéal. Et moi, je me sens beaucoup mieux quand je suis sereine et que je peux être avec les enfants sereinement. Dans la légèreté, dans la présence, dans les échanges de qualité et tout ça. Voilà, c'est ça qui me nourrit, moi, dans la relation avec l'enfant. Et je sens que c'est réciproque. Donc, je ne préconise absolument pas l'agressivité, mais au bout du compte, si effectivement il y a un peu d'agressivité qui est soit résiduelle d'une éducation ou contextuelle parce que ça fait trop de faire mes 8 heures de travail, l'accueil de mes enfants, payer mes factures, avoir mes soucis, etc. Ben oui, je suis un peu tendue, un peu agressive. Mais à la limite, si c'est distillé un petit peu tranquillement au fil de la journée, c'est presque moins impactant peut-être pour l'enfant que le parent qui est d'une patience et d'une passivité et d'une forme d'angélisme comme ça, artificiel avec son enfant, puis qui tout d'un coup pète un plomb parce qu'il n'en peut plus, quoi. Et ça, pour l'enfant, c'est très, très perturbant. Et ça ne va pas arranger notre petit phénomène d'enfant roi. Donc, que faire si j'ai pris une pente un peu glissante avec mes enfants, sûrement pour des tas de bonnes raisons, hein, comme je vous disais, peut-être parce qu'il y a eu tellement de domination, d'autoritarisme, d'agressivité dans mon histoire d'enfant que j'ai vraiment pas du tout le projet de reproduire avec mes propres enfants et que maladroitement et par surprotection, et ben je me suis mis à, malgré moi, hein, à construire chez mon enfant, par mes comportements, un phénomène d'enfant roi. Qu'est-ce que je peux faire ? Ben, je peux simplement retrouver le chemin de mon authenticité et prendre cette habitude de m'intéresser vraiment à ce que vit l'enfant et à partager avec lui ce qui est vivant chez moi. Alors, ce qui m'inquiéterait, c'est que ça soit plus du tout vivant, même chez le parent. Et c'est ça que des fois j'observe et qui est un petit peu inquiétant. C'est-à-dire que, par exemple, un parent va voir que son enfant, bon, je reprends l'exemple premier de mon enfant est en train d'écraser tout ce que fait un autre enfant ou un de piétiner, de détruire, et je ne réagis pas. Moi, ça m'interroge sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête du parent, quoi. Et pourquoi est-ce que, à quel endroit il est coupé d'une réaction authentique, juste de désapprobation. On a le droit de pas être d'accord avec ce que fait notre enfant, hein. C'est pas, on n'a pas dit bienveillance, c'est être d'accord avec tout. Et dans aucun cas d'ailleurs, ça serait. Qu'est-ce que vous apprenez à votre enfant si vous êtes tout le temps d'accord avec lui ? Que lui, il doit être tout le temps d'accord avec les autres ? C'est dangereux, non ? Donc, il y a des moments où on peut dire, ça, pour moi, c'est pas OK. Tu vois ? Là, c'est pas OK. Et même, neutraliser un enfant qui pourrait détruire ou faire du mal. On a le droit. On a le droit de neutraliser un enfant. On a même le devoir de le faire. J'ai un enfant qui veut. Il y a les autres enfants qui ont fait toute une construction en capla, et puis mon enfant, il veut débouler là-dedans parce que ça l'éclate de tout péter. Je peux le prendre sous le bras à ce moment-là et puis lui dire, mon petit chéri, on va s'éloigner un petit peu là. Et s'il y a une énorme frustration, ben on accompagne la frustration. Puis après, on s'expliquera. Ah ben tu vois, quand toi tu es en train de construire quelque chose, parfois tu as vraiment besoin de respect pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis. Et pour les autres, c'est pareil, quoi. Et ça s'appelle l'altérité, ça construit l'empathie et ça permet de se rendre compte que les autres aussi, ils ont leur vie à mener et qu'ils ont le droit de la mener tranquillement, le plus tranquillement possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où la cohabitation, elle peut être un peu bruyante, un peu bousculante, etc. Surtout si c'est choisi par les uns et les autres. À la ferme des enfants, on était allé jusqu'à établir qu'un jeu n'est pas un jeu tant que ça n'était pas choisi par tous les protagonistes du jeu. Parce que souvent, il y avait des enfants qui venez par exemple en médiation ou en conseil d'école pour déposer que, je ne sais plus, par exemple, j'ai en tête un épisode où il y avait des enfants qui prenaient en embuscade les autres enfants, et puis parfois ils les faisaient prisonniers et tout ça. Et il y en a à qui ça déplaisait, il y en a qui s'amusaient de ça, et puis d'autres à qui ça déplaisait vraiment. Et donc on avait décrété qu'un jeu ne peut être un jeu que si c'est un choix. Bien sûr, on ne peut pas jouer au détriment de quelqu'un, parce que sinon c'est encore, on est dans encore dans une relation de domination. Donc pour les comportements, c'est pareil. S'il y a quelqu'un qui se met à jouer de la trompette au milieu d'une conversation, même si c'est un adorable petit enfant, on est en droit de lui dire « Mon chéri, là, on ne s'entend plus. Et viens, on va en parler, on va trouver une solution. Un autre lieu pour jouer de la trompette, par exemple, où je vais te montrer un instrument qui est acceptable dans cet environnement-là, même quand il y a une conversation. » Et on est là, on cherche des solutions. Et c'est pas forcément à nous de les trouver, les solutions, parce que l'enfant, il a un potentiel créatif infini pour trouver lui-même des solutions. Mais encore faut-il poser le problème, quoi. Poser la problématique. Parce que si l'enfant ne se rend pas compte qu'on cultive chez lui le sentiment qu'il est seul au monde, mais on le cultive, hein, encore une fois, l'enfant est innocent, il n'y est pour rien. C'est que les adultes autour le maintiennent dans cette illusion qu'il vit seul dans ce monde, ben oui, forcément, c'est très limité et puis c'est problématique. Donc c'est super important que, à chaque fois que c'est nécessaire, nous puissions être là pour éveiller l'enfant à cette conscience, tout simplement. Oui, ce que je voulais dire aussi concernant cette thématique d'enfant roi, c'est que quand je fais le bilan, je connais plus d'adultes rois que d'enfants rois. Dans le sens où je connais beaucoup plus d'adultes qui fonctionnent de manière souveraine, autoritaire et sans limite que d'enfants, y compris dans nos milieux de pédagogie alternative. Où finalement, ce phénomène d'enfant roi, pour moi, il est assez rare. Et il est vraiment lié à un malentendu fondamental tel que je viens de l'expliquer. Mais des adultes qui sont sans limites ou qui ne reconnaissent pas les limites d'autrui, ni les besoins, bah alors là, il y en a légion. Ne serait-ce que en raison de cette violence éducative ordinaire qui en fait est un déni des besoins de l'enfant, bien souvent. Mais ce déni des besoins, je pense que la première victime du déni des besoins, c'est nous-mêmes. Nous vivons dans une société où nous n'avons pas appris à prendre en compte nos besoins fondamentaux, où rien n'est organisé autour de ces besoins fondamentaux au fond, parce que on est dans une société qui répond beaucoup à des motivations extrinsèques, à des stimuli déconnectés de l'intelligence de la nature et de l'intelligence de la vie, parce que on va se rendre compte que bien souvent on n'écoute pas notre corps. Qu'il y a une maltraitance fondamentale à l'égard de notre corps, qu'on va le gaver parfois de nourriture ou de substances, qu'on va s'adonner à des addictions, qu'on va travailler au-delà de nos réelles capacités, ou qu'on va faire un travail qui ne nourrit pas notre âme, qui ne nourrit pas notre être, mais qui est juste alimentaire ou qui est une contrainte. On va organiser toutes nos vies autour du projet, d'un projet qui n'a pas été élaboré par nous, mais par des institutions, par des entités plus ou moins déclarées qui font les règles de vivre ensemble et de fonctionnement de notre société économique. Donc finalement, nous sommes fondamentalement dans un mode de vie où les besoins profonds, au-delà de manger, dormir, respirer, avoir chaud, les besoins plus subtils, les besoins d'accomplissement, de réalisation de sens sont bien souvent négligés dans cette organisation-là. Donc finalement, ce dont souffre un enfant roi, c'est-à-dire d'être coupé et de ses propres besoins et des besoins des autres, c'est un peu la définition de notre société, quelque part. Donc peut-être que les personnes qui ont un peu cette expression qui leur vient assez facilement à l'idée, quand ils regardent des enfants qui sont plus libres ce que nous avons été lorsque nous étions nous-mêmes enfants, peuvent aller regarder de ce côté-là aussi, à quel endroit cet enfant roi, cet enfant qui, ou qui aimerait être roi de quelque chose, de reconquérir un royaume de souveraineté, ne serait-ce que de pouvoir redevenir son propre maître, mais d'une manière qui soit adaptée, bien sûr, qui ne soit pas comme ce syndrome de l'enfant roi dont on vient de parler et qui est souffrant, mais peut-être conquérir notre véritable souveraineté, qui va passer par l'écoute de tout ce qui est important pour nous, de nos sens, de nos besoins, de notre rapport à la vie, de notre conscience, de ce que c'est que notre existence, et que ce n'est qu'à partir de là aussi qu'on va être apte pour accompagner les enfants qui sont autour de nous, parce que si on est nous-mêmes ignorants de ce qui est important pour nous, ça va être difficile de le communiquer à l'enfant qui est à nos côtés. Et peut-être que des fois, dans nos pédagogies alternatives, on compte un peu trop sur les enfants pour montrer la voie de ce qui nous a manqué à nous. Voilà, donc reconquérir cet espace intérieur où nous sommes dans la connaissance de soi, dans la conscience de soi, dans la conscience de nos besoins fondamentaux, c'est un préalable indispensable pour pouvoir accompagner les enfants et éviter des écueils qui sont multiples, mais dont l'enfant roi n'est qu'une un représenté ou une possibilité parmi d'autres de malentendus en termes d'accompagnement de l'enfant. Voilà, j'espère que cet audio vous sera utile et qu'il va pouvoir nourrir en tout cas votre réflexion et vos observations par rapport aux enfants que vous accompagnez ou qui sont sur votre chemin. Et je vous souhaite beaucoup de conscience et de plaisir à retrouver un chemin plus juste et plus authentique. Je vous remercie, à très bientôt.